Lisons à partir du verset 26. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux et sur le bétail et sur toute la terre et sur tout animal rampant qui rampe sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. Et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, fructifiez et multipliez et remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous ai donné toute plante portant semence qui est sur la face de toute la terre, et tout arbre dans lequel il y a un fruit d'arbre portant semence. Cela vous sera pour nourriture, et à tout animal de la terre, et à tout oiseau des cieux, et à tout ce qui rampe sur la terre, qui a en soi une âme vivante, j'ai donné toute plante verte pour nourriture. Et fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Et il y eut soir, et il y eut matin, le sixième jour. Jusque-là, on lit au début la parole de Dieu. On a dit, si un grand écrivain, on dit ça. Écrivain commence ses livres, son livre, et va normalement commencer avec une grande histoire, une grande philosophie, quelque chose qui montre ses idées, ce qu'il a dans son cœur pour le monde, pour la société. Mais Dieu n'a pas commencé sa parole comme ça. Dieu montre dans sa parole ses conseils éternels, en fait. Et on va voir dès le début, en fait. Mais il commence sa parole par nous montrer quelque chose de ce qu'il a fait. Pourquoi ? Premièrement, parce qu'il veut se présenter, premièrement, comme créateur. Mais deuxièmement, Et je vais revenir sur la pensée de Dieu comme créateur, mais deuxièmement, parce qu'il veut que l'homme est capable de tester, de prouver, éprouver si c'est juste ce que Dieu dit. Les idées, normalement, on ne peut pas prouver parce que on peut dire ça dépend de la condition de l'homme ou de la société, si c'est vraiment capable de les mettre en pratique. Mais avec ce qu'on a fait, on peut tester est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit. Et en fait, l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament nous montre que par ces choses que Dieu a fait et desquelles il parle dans Genèse 1, il y a la possibilité de voir quelque chose. Dans Romains 1, nous voyons, après une certaine introduction dans cet épître, que l'apôtre montre que chaque homme ici sur la terre est coupable devant Dieu. Quoi que soit son origine, la société dans laquelle il se trouve, le caractère qu'il a, il est coupable. Et il commence dans le verset 18 par montrer que la colère de Dieu est révélée du ciel contre toute impiété. Pourquoi ? Verset 19. Parce que ce qui se peut connaître de Dieu est manifeste parmi eux, les nations. Car Dieu leur a manifesté, car depuis la fondation du monde, ce qui ne se peut voir de lui, parce que Dieu est invisible. Dieu habite dans une lumière invisible. Ce qui ne se peut voir de lui, savoir, et sa puissance éternelle et sa divinité se discernent par le moyen de l'intelligence, par les choses qui sont faites de manière à les rendre inexcusables. Ça veut dire, Dieu a créé des choses et il l'a mis, pour ainsi dire, directement au début de sa parole, pour montrer quelque chose de lui-même. Il est très clair, chacun de nous, et des hommes en fait, en général, ils savent qu'il n'existe rien aujourd'hui, une banque, une table, une chaise, qui n'a pas de créateur. Il n'y a rien qui est fait par soi-même. Alors, on peut voir quelque chose de ce créateur humain même, par ce qu'il a fait. Et c'est exactement la même chose pour Dieu. On peut voir quelque chose du caractère, de la puissance, aussi de l'amour de Dieu, par les choses, et plus que des choses, parce qu'il a fait des hommes, des animaux. On peut voir quelque chose de Dieu par ce qu'il a fait. Et certainement, c'est vrai que personne n'était là quand Dieu a créé les choses. La terre, les étoiles, la lune, etc. Mais on peut voir aujourd'hui le résultat de la création. Elle existe encore. Et il n'y a rien du tout qui existe aujourd'hui qui on peut prendre pour dire non, c'est en contradiction avec ce que nous trouvons dans Genèse 1, dans la création. Dieu est visible par ces choses qu'il a créées. Et en fait, même si la gloire de Dieu comme créateur n'est pas du tout la gloire la plus haute, il y a beaucoup de gloires qui sont beaucoup plus élevées que la gloire du Créateur. Dieu nous montre dès le début que Dieu est le Créateur. Maintenant, pour prouver qu'il y a des gloires qui sont plus hauts, si vous voulez, que la gloire de créature, je prends comme un de ces exemples qui existent, psaume 19. Dans psaume 19, nous trouvons David qui commence par parler de la gloire créatrice de Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue annonce l'ouvrage de ses mains, etc. Il parle de ses gloires, de la création, ça veut dire du Créateur, qu'on peut voir particulièrement dans la nuit. Quand on regarde les cieux, les étoiles, etc., c'est magnifique. Et vraiment, on réfléchit un peu sur les structures et sur l'équilibre qui existe juste avec les étoiles et les planètes, etc. C'est incroyable. Personne n'est capable de produire un équilibre d'une chose comme cela. C'est Dieu. C'est une gloire incompréhensible. Mais après, il continue avec la parole de Dieu. À partir du verset 7, il parle de la loi. Une autre chose qui montre quelque chose des gloires de Dieu. Le Créateur, c'est extraordinaire, c'est énorme. Mais il y a maintenant, deuxièmement, et c'est déjà une gloire plus haut, quelqu'un qui ne donne pas seulement des choses matérielles, mais par sa parole, il a donné une structure, un ordre moral. Ça veut dire des personnes qui vivent ici sur la terre, ils ne sont pas seulement des humains matériellement parlant, mais ce sont des humains qui ont reçu un ordre moral pour être capable de vivre ensemble et aussi en relation avec Dieu. C'est déjà plus. Mais le psaume arrête, finit avec une toute autre pensée. Verset 14. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, ô Éternel. C'est moral, c'est la loi. Mon rocher et mon rédempteur. Et voilà. La gloire de Dieu, on peut dire aussi la gloire du Seigneur comme rédempteur, et est une gloire qui est plus haut que la gloire de Créateur. Parce que nous savons, pour créer, il fallait un mot, psaume 33, sauveur. Mais pour être rédempteur, il fallait devenir homme et mourir. Quelque chose qui inclut une certaine morale, une degré, quelque chose qui est beaucoup plus que créer des choses. Mais même avec la gloire de notre Dieu comme créateur, Dieu continue, Dieu reste toujours avec cette pensée dans la Bible. Il est très remarquable qu'il n'arrête jamais, jamais avec cette gloire. Pourquoi? Parce qu'il veut nous enseigner qu'il y a un seul Dieu. Et si je n'accepte pas le Dieu, le Créateur, je perds toutes les autres gloires aussi. Si je rejette le Créateur, je rejette aussi le Rédempteur. Parce que le Rédempteur est le Créateur. Il n'est pas une différente personne. Et c'est la raison que Dieu commence par une gloire qui n'inclut pas encore cet domaine moral, parce qu'on peut le voir. La création. On peut voir avec notre esprit que Dieu a créé des choses. Parce que dans notre monde miniature, pour ainsi dire, c'est tout à fait la même chose. Il ne faut pas avoir une morale, une conscience, pour ainsi dire, pour comprendre qu'il y a un créateur qui est derrière des choses et la vie qui existe. Dieu le fait facile pour l'homme. Et pour cela, il continue toujours. Psaume 19, j'ai parlé. Sur psaume 9, j'ai dit quelques mots. On peut regarder chaque livre, en fait, nous montre que Dieu est créateur. Isaïe 45, qui parle directement de la création. Et on peut continuer dans le Nouveau Testament jusqu'à Apocalypse. Dans Apocalypse, par exemple, dans les chapitres 4 et 5, nous voyons le fondement de l'autorité du Seigneur comme juge. Pourquoi est-ce que le Seigneur a le droit d'être juge? Parce que, chapitre 4, il est le Créateur. Et chaque créature est responsable devant le Créateur. Et chapitre 5, parce qu'il est le Rédempteur. Parce qu'il a laissé sa vie, il a le droit, pas seulement sur ceux qui ont cru, mais il a acheté derrière eux chaque homme par cette mort. Ça nous montre, encore une fois, cet ordre des gloires, mais aussi que Dieu ne laisse jamais tomber cette gloire de Créateur. C'est extraordinaire. Et il faut lire la parole, aussi le Genèse 1 et 2, premièrement avec cette perspective que Dieu est Créateur et qu'il ne parle pas seulement des choses de ses conseils éternels, mais qu'il parle des choses qu'on peut voir, qu'on peut toucher, on peut entendre, etc. Dieu nous montre vraiment ce qu'il a fait. Mais certainement, Dieu est plus grand. Et expressément ou particulièrement parce qu'il est le Créateur, il est aussi capable, certainement, capable de montrer par la création des choses qui sont derrière la création ou qui sont une image des choses spirituelles, même célestes. Et pourquoi est-ce que je peux le dire? Parce que Dieu le dit lui-même. Si on lit dans 2 Corinthiens 4, on voit dans le verset 3. Et si aussi notre évangile que Paul a prêché est voilé, et est voilé en ceux qui périssent, en lesquels le dieu de ce siècle, ça veut dire Satan, a aveuglé les pensées des incrédules pour que la lumière de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu, ne resplendit pas pour eux. L'apôtre dit alors ici dans ce verset, Dieu a pris sa lumière pour pour reluire, pour faire refléter sa lumière dans l'homme. Mais il y a une personne qui ne veut pas, qui rejette cette lumière, c'est Satan. Elle essaie de cacher, pour ainsi dire, cette lumière et de ne pas laisser la lumière entrer dans l'âme de ces hommes. Et ceux qui rejettent eux-mêmes cette lumière, ils périssent tous. Verset 4. Mais il y a, grâce à Dieu, d'autres aussi. Verset 6. Car c'est le Dieu qui a dit que du sein des ténèbres, la lumière resplendit, qui a reluit dans nos cœurs pour faire luire la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Christ. Alors, dans Genèse 1, nous lisons dans le verset 3, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et l'apôtre dit ici, dans 2 Corinthiens 4, verset 6, ce qui était vrai dans la matière, dans cette terre, que Dieu a fait luire, la lumière, on peut lire ça, c'est vrai dans une autre dimension, moralement aussi. Parce que comme la terre était dans un état chaotique après que Satan est tombé, la même chose est vraie pour nous les hommes. À cause de la chute d'Adam et d'Ève, et quand le péché est entré dans le monde, Dieu a une autre fois commencé pour parler à l'homme. Il a fait luire sa lumière morale, ça veut dire par Jésus-Christ, dans le cœur de l'homme. Et par cela, nous l'appelons la nouvelle naissance. La gloire de Dieu est entrée dans nos cœurs que nous pouvons voir dans la face de Christ. Alors, ça nous montre que dans Genèse 1, nous n'avons pas seulement la création, mais nous avons aussi l'histoire de la relation de Dieu avec l'homme. Ça veut dire comment Dieu a recommencé l'histoire avec l'homme par luire dans nos cœurs, par la nouvelle naissance et par nous changer pas après pas dans notre vie comme après cette nouvelle naissance comme croyant. Parce que l'Ancien Testament, normalement, ne nous montre pas la position, ça veut dire comme type, comme modèle. L'Ancien Testament ne nous montre pas la position de croyant, mais l'Ancien Testament nous montre comment cette position dans laquelle Dieu nous a posé est comprise et pratiquée dans nos vies. Ça commence par cette lumière qui est entrée dans mon cœur. Et ça continue, comme j'ai dit, pas après pas, jusqu'à le dernier degré, si on veut. La dernière étape, c'est ce que Dieu veut pour nous tous, que Christ est tout pour nous. Jean parle de cet état quand il parle dans 1 Jean 2 des pères en Christ. Quelle est la marque, quel est le trait des pères en Christ? Ils ont, comment est-ce que c'est exprimé? 1 Jean 2, verset 14, je pense. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement, c'est Christ. Connaissez veut dire que pour eux, il n'existe personne que Christ. Leur décision, en confondement, est-ce que c'est Christ? Est-ce que c'est pour Christ? Est-ce que je peux glorifier Christ? Est-ce que j'ai Christ avec moi, avec cette décision ou pas? Ça veut dire que Christ est tout pour eux. Celui qui est dès le commencement. Et c'est exactement le sixième jour, ça veut dire la deuxième partie, que nous avons lu à partir du verset 26. Le sixième jour nous montre l'homme, Adam. Et Romains 5, verset 14, sauf erreur, nous montre que Adam est le type de dernier Adam, de Christ. Ça veut dire ici, dans le sixième jour, nous voyons que pour un croyant, c'est que le dernier Adam. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'avec qui est-ce que le dernier Adam est lié? Avec tous ceux qui ont cru au Seigneur dans notre temps aujourd'hui. Ça nous montre que les gloires que nous trouvons dans le dernier jour, sixième jour, deuxième partie en fait, sont liées pas seulement à Christ, mais aussi à nous. Et il est remarquable qu'on peut voir dans ce sixième jour plusieurs gloires de Christ comme de nous qui sont mentionnées. Et je me limite maintenant juste à ces points dans ces versets que nous avons lus qui sont décrits dans une autre façon que ce qu'on trouve dans les autres jours dans Genèse 1. Parce que on peut voir que la description de cette création dans le sixième jour est différente qu'avec les autres. Et par cela, on voit des gloires de Christ et les gloires que Dieu nous a données par sa grâce. Lisons, verset 26. Et Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Dans les jours avant, on a lu verset 9, et Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus des cieux se rassemblent, etc. Et il fut ainsi. Verset 6, et Dieu dit qu'il y a une entendue entre les eaux, et Dieu fit l'entendue. Mais ici, dans le verset 26, et Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Ça nous montre un échange qui était entre les personnes de divinité, les personnes divines. Ça n'existait pas avant cet échange. C'est seulement quand nous arriverons avec l'homme. Ça veut dire ici, c'est la première gloire. On voit directement que Dieu, qui est un, et en même temps plusieurs personnes. L'hébreu a une certaine spécialité. Dans l'hébreu, différemment comme que le français et l'allemand aussi, on ne peut pas exprimer seulement une personne ou plusieurs personnes, mais aussi deux personnes. Le dual, on dit en hébreu. Mais ici, ce n'est pas le dual, mais c'est le pluriel, plus que deux. Certainement, il n'est pas dit trois, mais on peut voir ici directement, certainement aussi avec le titre de Dieu, Dieu Elohim, mais ici, on peut voir que Dieu est plus que deux, et en même temps, un. Parce que nous avons lu aussi plus tard, quand il est dit qu'il a créé l'homme, 27, oui, Dieu créa l'homme à son image. Créé est singulier ici. Dieu est pluriel et créa, c'est singulier. Ça montre que Dieu qui est en pluriel, si vous voulez, certainement, c'est tout à fait différent que nous. Trois personnes ici sont des trois personnes différentes, indépendantes l'un de l'autre. C'est pas avec Dieu. Dieu est un. Ça veut dire le Père, le Fils, le Saint-Esprit ne sont pas des personnes indépendantes, mais ils sont des personnes qui, ensemble, sont une personne. Mais en même temps, ils sont trois personnes. Où est-ce qu'on trouve la première fois la révélation que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit? Pendant l'Ancien Testament. On trouve une certaine ombre du fils dans Proverbe 30 ou 31. Mais qu'il y a trois personnes, et ces trois personnes, on trouve la première fois avec le baptême du Seigneur. C'est lié à la personne de notre Seigneur. C'était le Père qui a exprimé ses pensées que c'est le Seigneur qui était pour son plaisir. C'était le Fils ici sur la terre et c'était le Saint-Esprit qui est venu sur le Seigneur loin de notre Seigneur pour son service. La première fois qu'on trouve les trois personnes révélées, c'est avec la personne de notre Seigneur, comme ici. Et en même temps, cette situation, Matthieu 3, est en fait, prophétiquement, spirituellement, ça montre notre position aujourd'hui. Nous avons un Père dans le ciel. Le Saint-Esprit qui est venu ici sur la terre pour habiter en nous. Et nous sommes liés avec le Seigneur, certainement maintenant, dans le ciel. Ça nous montre que la position du Seigneur ici sur la terre est comme homme, est exactement la position que Dieu nous a donnée en Christ. Lui, certainement, est le Fils éternel. Nous sommes des hommes. Nous sommes ceux qui étaient achetés. Mais en même temps, comme homme, nous sommes liés éternellement à la position de notre Seigneur. Lui est maintenant glorifié dans le ciel, nous serons avec lui glorifiés. Maintenant déjà en lui, on est dans le ciel, dans les lieux célestes, mais éternellement, on va entourer le Seigneur, on va être béni comme lui. Lui certainement, toujours le premier-né parmi ses frères. Deuxièmement, quand Dieu ici, verset 26, parle, pour ainsi dire, les trois personnes parlent entre eux. Ça nous montre prophétiquement que avant que l'homme ait été fait créer, avant la création du monde, il y avait un conseil éternel de Dieu. Sur qui ? Premièrement, sur Christ, certainement. Le centre des conseils, ou du conseil plutôt, parce qu'en fait c'est un singulier, il y a un conseil qui inclut tous les détails, tous les aspects. Le centre de ce conseil de Dieu, c'est certainement Christ. 1 Pierre 1, l'apôtre parle de notre Seigneur, des versets très connus. Où Pierre dit dans le premier chapitre, verset 18, que nous ne sommes pas rachetés par or ou argent, mais verset 19, par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, préconnu dès avant la fondation du monde. Dans les conseils de Dieu, dans le cœur de Dieu, certainement du Père, Fils et Saint-Esprit, c'était Christ qui était devant son cœur, devant ses yeux. Et lui, il a préconnu Christ comme celui qui est devenu agneau de Dieu. Préconnu dès avant la fondation du monde comme agneau sans défaut et sans tâche. Éternellement, le centre de conseil, le centre de communion, si vous voulez, de la divinité, c'était Christ. Et ce que Christ va accomplir ici sur la terre. Et j'espère bien que ce qui est le centre de conseil du conseil de Dieu est aussi le centre de nos pensées, de nos échanges dans nos communions, pas seulement dans les réunions mais aussi dans nos conversations. Mais nous voyons dans d'autres passages, par exemple Éphésiens 1, que ce n'est pas seulement Christ qui est l'objet des conseils éternels. On voit dans le Éphésiens 1, verset 4, selon qu'il, Dieu nous a élus en lui avant la fondation du monde. Dieu nous a élus et nous a préconnus aussi, que nous trouvons dans d'autres passages. Mais il nous a élus. Certainement, le Seigneur n'était pas élu comme l'agneau. Parce que pour une élection, il faut plusieurs. Et pour devenir cet sacrifice, il n'y avait pas plusieurs. Il y a une seule personne. C'est la raison pour laquelle, pour le Seigneur, c'est que préconnu. Et pour nous, nous sommes élus en Christ, certainement, avant la fondation du monde. C'est une pensée, c'est une gloire, c'est une bénédiction. J'en suis sûr, on n'a vraiment pas une appréciation juste. Que Dieu, avant qu'il n'y ait rien, a pensé à toi et à moi. Et pas seulement à penser, mais il a activement élu. Il n'a pas élu, il ne t'a pas élu parce que Dieu a su que nous allons nous repentir. Ce n'est pas une élection active. Non, c'est vraiment Dieu qui activement a pris ma personne pour dire « Lui est pour moi et pour moi gloire ». Et c'est la même chose pour chacun ici qui a accepté Jésus comme sauveur. Il peut dire « Dieu m'a élu avant la fondation du monde ». Comme Christ était préconnu avant la fondation du monde, toi et moi qui crois au Seigneur, il nous a élus activement, il nous a voulu, il nous a aimés, il a fixé ses yeux, sa grâce, tout son souci, pour ainsi dire, sur toi et sur moi, pour nous faire participer à sa gloire avec Christ, en Christ. Quelle gloire, quelle bénédiction. Faisons l'homme à notre image. Nous faisons partie du conseil éternel de Dieu. Troisièmement, l'homme à son image. Dieu n'a jamais parlé sur les animaux avant. Non, il les a faits. Et il n'y a pas de plante ou d'animal qui est fait à l'image de Dieu. Image veut dire représentation. Oui, si j'ai une photo de ma femme, c'est la représentation de ma femme. Et l'homme est fait comme image de Dieu, comme représentant de Dieu. Nous avons lu déjà dans 2 Corinthiens 4, verset 6, que le Seigneur est l'image de Dieu. Colossiens 1, verset 15, lui est l'image de Dieu invisible. Et lui, il est la représentation, le représentateur, représentant parfait de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire représentant pour l'homme? C'était comme Dieu est celui qui règne sur la terre, lui a donné cette position à l'homme, de régner sur la terre. Il était dans ce sens-là le représentant de Dieu. Et nous le sommes jusqu'à aujourd'hui. Mais on commence toujours avec le Seigneur. Lui a montré qui est Dieu. Lui a montré Dieu absolument, parfaitement. Le Seigneur a pu dire... Celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 14. Ou plus exactement encore vis-à-vis de Dieu, dans Jean 1, verset 18, le Seigneur a pu dire: personne ne vit jamais Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, là, ça veut dire Dieu, fait connaître. C'est le Seigneur qui est venu, il a fait connaître le Dieu invisible. Pourquoi est-ce qu'elle était capable de le faire parfaitement? Parce qu'elle était éternellement dans le sein du Père, parce qu'elle est Dieu. Elle a pu montrer parfaitement, représenter Dieu. Nous sommes aussi des représentants de Dieu. Même après la chute, on lit dans Genèse 9, avec Noé, dans le verset 6, qui aura versé le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car à l'image de Dieu, il a fait l'homme. Ça veut dire, et avec Noé, on voit que Dieu dit que les animaux doivent avoir peur devant l'homme. Ça veut dire aussi après la chute, même après la chute, l'homme a cette position de domination sur la terre. Et maintenant, ce n'est pas seulement une gloire pour nous. Reste la question, est-ce que nous sommes vraiment, dans nos vies pratiques, des représentants de Dieu? Est-ce que le monde peut voir quelque chose de Dieu dans ma vie? C'est une bénédiction, c'est une... oui, mais c'est une responsabilité aussi. Quatrièmement, l'homme est fait selon notre ressemblance. Certainement, il n'y avait pas de plante, pas d'animal qui est fait d'après, selon la ressemblance de Dieu. Mais l'homme était. Ressemblance veut dire similarité. Comment est-ce qu'on peut le comprendre avec l'homme? Comment est-ce que l'homme était similaire, pour ainsi dire, en ressemblance de Dieu? Alors, Dieu était sans péché. Et l'homme était créé aussi sans péché. Certainement, l'homme n'était pas saint. Pour être saint, il faut avoir un pouvoir de dire non contre le péché. Et pour être capable de dire non contre le péché, il fallait savoir qu'est-ce que c'est le péché. Et Adam n'était pas capable de cela parce qu'il n'a pas su le péché. Il n'a pas su qu'est-ce que c'est le péché. Le moment où il a appris le caractère du péché, il n'était plus capable de ne pas pécher. Parce que c'était le moment où il était désobéissant, et il a perdu la similarité, en fait, de Dieu, cette ressemblance, parce qu'il n'était pas saint. C'est tout à fait différent avec le Seigneur. Le Seigneur était toujours le saint. Mais, ici, c'est une expression qui nous montre la vérité de ce que l'écrivain de l'Épître aux Hébreux a exprimé, que l'Ancien Testament est que l'ombre de la vérité. Parce que certainement le Seigneur n'est pas en ressemblance de Dieu, il est Dieu. Comme aussi, nous voyons ici que l'homme était créé, mais certainement le Seigneur n'était pas créé. Il n'était jamais créature, ni dans la première création, ni dans la nouvelle création. Il est créateur. Il est le début de nouvelle création, mais il ne fait jamais partie de la création dans le sens d'être créature. Non. lui n'est pas en ressemblance de Dieu, il est Dieu. Et ça fait toute une différence. Mais pour nous, on voit dans le chapitre 5, avec les fils de Genèse 5, avec les fils d'Adam, qu'ils n'étaient plus en ressemblance de Dieu. Il est dit dans le verset 3, « Et Adam vécut 130 ans et engendra un fils à sa ressemblance. » Maintenant, les hommes étaient faits en ressemblance de celui qui était pécheur. Quelle chute! Mais pour nous, ça changeait. Parce que par la nouvelle naissance, par cette grâce de Dieu, Dieu nous a donné une nature qui est une nature sainte. Pour le croyant, ça a changé. Ceux qui sont en relation, qui sont liés avec le Seigneur, ils sont encore une fois en ressemblance de Dieu. En contraste avec le Christ, nous ne sommes pas Dieu, mais nous sommes en ressemblance de Dieu par cette nouvelle nature. Quelle grâce, mais quelle responsabilité. Est-ce que nous sommes vraiment en ressemblance pratiquement de Dieu? Est-ce que le péché n'a aucune place dans nos vies? Est-ce que nous rejetons vraiment le péché dans nos vies? Ou est-ce que nous vivons comme le monde? Le Seigneur nous montre ici ce que quelqu'un qui est père en Christ pratique. Il est en ressemblance de Dieu pratiquement. Ça veut dire qu'il ne veut plus pécher. Cinquième différence entre le sixième jour et les autres, il est dit « Et qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux et sur le bétail. » Il n'était pas du tout question de dominer, que les animaux, par exemple, ont dominé sur les plantes ou quoi. C'est la première fois que c'est dit sur l'homme. Et ce n'est pas difficile de voir Christ dedans, n'est-ce pas? Dieu a donné à son Fils une place de domination sur la terre. Éphésiens 1, psaume 8 et d'autres passages nous montrent que le Seigneur va régner sur la terre. Dans le millénium, et Apocalypse 21, 22 nous montre que c'est de l'éternité à l'éternité, ça veut dire éternellement. Le Seigneur va régner. Et c'est incroyable qu'il ne veut pas régner seul, mais qu'il veut que nous sommes à sa côté. Éphésiens 1 le fait très clair, que nous sommes inclus dans son règne. C'est la même chose ici. C'était Adam qui était créé, premièrement. Et Dieu, aussi dans le chapitre 2, la répète à Adam seulement. Mais Adam n'a pas régné sans Ève, pour ainsi dire. Il a pris Ève avec lui pour cette domination. Une spécialité ici, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux et sur le bétail. Le règne le plus difficile, c'est sur les poissons. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas vraiment quels poissons sont dans la profondeur des mers. C'est quelquefois, quand il y a un poisson mort ou mangé par un autre poisson, qu'on voit de plus de ces animaux dans la profondeur des mers. Ça veut dire, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vraiment le pouvoir de dominer sur tous les poissons. Et il y avait un homme qui a reçu une domination souveraine ici sur la terre, c'était Nebuchadnezzar. Et il est remarquable qu'il a reçu la domination sur les oiseaux, le bétail, etc., mais pas sur les poissons. Parce que c'est Christ et ceux qui sont à sa côté.
Et Dieu a voulu que nous savons que lui a vraiment cette autorité. Comment? Parce que Dieu nous a mentionné plusieurs fois que déjà dans la vie de notre Seigneur sur la terre, il a eu cette domination sur les poissons. Il y a au moins trois passages qui montrent Luc 5, où Pierre a voulu prendre des poissons et n'était pas capable. Et le Seigneur dit, mais maintenant. Et le filet était presque à déchirer. Les 153 poissons, Jean 21, pareil. Et Matthieu 17, Pierre était très vite à dire certainement mon maître paye cette taxe de temple. Le Seigneur dit non, ce n'est pas nécessaire, mais on va le payer. Comment? Par un poisson sur lequel le Seigneur a eu autorité qu'il prend cet argent et pris par exactement ce poisson est pris par Pierre. Le Seigneur a montré qu'il a vraiment l'autorité sur ces poissons. Ça, on voit ici. Sixième gloire différente, verset 27. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. Maintenant, le mot créer dans l'hébreu est un mot spécial. Et ce n'est pas une spécialité ici, parce que c'est mentionné déjà dans le verset 1, et plus tard aussi avec les grands animaux des eaux que Dieu a créés, verset 21. Mais la première fois, c'est mentionné trois fois ici. Dans le verset 27, on voit que Dieu veut souligner cette puissance de création avec l'homme par mentionner ce mot trois fois. Ce mot en hébreu est utilisé seulement quand Dieu a fait quelque chose et que le résultat était surprenant. Et c'est avec l'homme. C'était quelque chose qui n'existait pas avant. Mais ce qui est spécial ici, il est créé mâle et femelle. Les animaux, certainement, ont été créés aussi mâles et femelles. Mais Dieu ne le dit pas. Pourquoi? Parce qu'il veut le prendre ici pour l'homme. Et ça montre une autre gloire. Éternellement, Dieu avait dans son cœur de ne pas laisser Christ seul. Il a voulu éternellement que Christ a une épouse. Christ, comme homme certainement, n'est pas parfait, pour ainsi dire, sans son épouse. Et ça, on voit déjà dans ces premiers versets dans la Bible, que dans le cœur de Dieu, Dieu voulait qu'il y ait un objet de l'amour pour son Fils comme homme ici sur la terre. Et que éternellement, cette épouse sera avec lui, comme c'est une grâce pour nous, mais aussi un amour. Hein. Le Seigneur nous aime, nous aimons le Seigneur. C'est la position. La pratique est que Christ nous aime. Il nous a montré qu'il nous aime. Et nous, est-ce qu'il y a une réponse au Seigneur, comme assemblée, comme épouse pour le Seigneur? Verset 28. Et Dieu les bénit et Dieu leur dit. Il est presque fructifier et multiplier et remplir la terre. C'est presque la même chose qu'on lit dans le verset 22. Et Dieu les bénit, ces grands animaux, etc., disant fructifier et multiplier et remplir les eaux. Mais il y a une différence. Ici, dans le verset 28, et Dieu leur dit. C'est la première fois que Dieu a un objet pour parler. ça nous montre l'évolution, c'est... Dieu nous montre que l'évolution, c'est fou. Adam, en contradiction de nous, il n'a pas dû apprendre de parler des mots et des lettres, etc. Dès le début, il a pu parler avec Dieu et Dieu à lui. Parce que l'homme a un esprit et Dieu l'a créé avec un esprit pour avoir contact avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire vis-à-vis Christ? Dieu a parlé à son Fils éternellement. C'est communion. Il y avait une communion éternelle entre Dieu et son Fils. Et cette communion a existé toujours ici sur la terre. Le Seigneur était toujours en communion avec son Père. Et il n'y a aucune interruption. Je ne parle pas certainement des trois heures de ténèbres qui sont la plupart de l'Ancien Testament en dehors des perspectives. Mais le Seigneur était toujours en communion, pleine communion avec le Père. Même dans des souffrances extrêmes, le Seigneur toujours en communion avec son Père. Et pour nous, c'est la même chose. Dieu a maintenant ici sur la terre un peuple avec lequel il a communion, qui ont le même pensée sur son Fils comme lui, qui ont les mêmes sentiments vis-à-vis toutes les choses. Ils ont des mêmes jugements comme lui. C'est quelle bénédiction, mais quelle responsabilité. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que nous connaissons vraiment cette communion pratique journalière avec le Seigneur, avec Dieu, notre Père? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une réalité dans nos vies? Huitièmement, verset 29, Dieu dit, « Voici, je vous ai donné toute plante portant sémence qui est sur la face de toute la terre et tout arbre, etc. Pour nourriture. » Directement après, on voit que Dieu a donné aussi ces plantes comme nourriture pour les animaux. Mais il a attendu de le dire pour commencer avec l'homme. Dieu a donné à Adam nourriture. Quelle est la nourriture de Christ? C'est tout ce que Dieu l'a donné. C'est ce que Dieu a voulu pour le Seigneur. On pense à Jean 4, par exemple. Quelle était la nourriture de notre Seigneur? Il dit dans le verset 32, « Moi, j'ai de la viande à manger que vous ne connaissez pas. » Verset 34, « Ma viande est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » C'était la nourriture de notre Seigneur. On peut dire aussi, la nourriture de lui, c'est la joie de communion avec ce que Dieu a donné au Seigneur ici sur la terre. Comme le Seigneur dit dans Jean 10, « Ce que tu m'as donné, c'était sa nourriture. » Quelle est notre nourriture? Est-ce que notre nourriture est vraiment ce que Dieu nous a donné comme parole, par exemple? C'est les plantes, c'est la viande que Dieu nous a donnée. Est-ce que c'est pratiquement notre nourriture, ce que Dieu nous a donné? Neuvièmement, verset 30, ce n'est pas quelque chose qui est mentionné, mais qui n'est pas mentionné. Dans tous les autres jours, sauf le deuxième, il est toujours dit, verset 25, à la fin par exemple, Dieu vit que cela était bon. Aussi dans des autres jours, croit pareillement. Mais ici, ça manque. Peut-être quelqu'un dit, mais il est dit ici, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela a été très bon. Mais ce n'est pas sur le sixième jour, mais c'est sur tous les six jours. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de jugement que c'était bon après ce sixième jour? Parce que la personne de notre Seigneur est incomparable. On ne peut pas comparer et dire c'est bon en comparaison avec les autres choses que Dieu a créées, a fait. Non, le Seigneur est dehors de toute comparaison, de tout jugement, pour ainsi dire. Il est le seul. Est-ce que c'est vrai pour nous aussi que le Seigneur est incomparable avec toute autre personne, chose? Mais en même temps, nous sommes liés avec lui. L'assemblée sera au-dessus de tout le reste éternellement. Il sera les hommes sur la terre. Et seulement l'assemblée, comme épouse du Seigneur, sera dans le ciel. Incomparable. Est-ce que l'assemblée pour nous a aussi cette place? Dixième point, dernier point, à la fin du verset 31. Et lieu soir, et lieu matin, le sixième jour. Dans les autres jours, on voit verset 23, cinquième jour, au quatrième jour, toujours sans article. Pourquoi? Parce qu'il suit encore quelque chose. Mais avec le sixième jour, tout est accompli. Il ne reste rien. Le septième jour n'a pas une continuation. C'est la pause, c'est le repos pour Dieu. C'est éternité, prophétiquement. Mais avec ce que nous avons comme sixième jour, tout est accompli. Si le Seigneur est devant le cœur, les yeux de notre Dieu et Père, et il ne cherche rien d'autre, c'est tout pour lui. Après, il peut reposer. Et même avec nous qui sommes liés avec le Seigneur, Dieu fait la même chose. S'il voit l'épouse avec Christ, c'est tout ce que Dieu a cherché et a désiré. Encore une fois, la question pour nous, est-ce que c'est vrai pour nous aussi? Est-ce qu'avec Christ, tout notre désir, tout ce que nous cherchons à trouver une réponse, ou est-ce que nous cherchons encore d'autres choses sur la terre? Certainement, il faut travailler, il faut s'occuper des choses terrestres aussi dans nos vies, mais vraiment dans nos cœurs, est-ce que nous sommes contents d'avoir Christ devant nos yeux, dans nos cœurs, ou est-ce que nous cherchons encore d'autres choses? Alors, ça ne sera pas le sixième jour pour Dieu et pour Christ. Avec ces choses, avec ces mensonges, tout est réglé. Et donne Dieu à nous aussi d'avoir vraiment tout dans le Christ, dans son Christ, dans notre Seigneur. Elle est au-dessus de toute autre chose, de toute autre pensée et personne. Pour Dieu, ça reste toujours le cas.